Chapitre 11. Quelques secondes d'éternité. À l'aube du premier jour, en compagnie de cette nouvelle communauté, Adrien déambule dans la hêtraie avec son chien. Il aime ce moment où le soleil n'a pas encore dépassé la montagne, où les nuages se colorent de rouge pour l'annoncer, où les bancs de brume dans les coins froids des champs s'attardent à l'abri du vent avant de se dissiper, où chante l'écho du premier train qui progresse dans la vallée en contrebas, où il se sent plus proche des arbres que des humains. Il aime l'odeur d'humus des matins du printemps, le chant du pique-et-pêche dans la canopée, ses pas dans les feuilles de l'automne précédent. Des branches mortes craquent, la matière organique se décompose pour redonner du vivant. La nature a cette intelligence. Son fidèle compagnon déambule, la truffe collée au sol. En arrivant ici, 2 ans plus tôt, l'animal s'est découvert une passion pour le bois. Il déplace des quantités phénoménales de branchages au fil des balades, parfois présomptueux de la force de sa nuque pour en soulever certains. Bloom marque soudain l'arrêt en direction de la cabane. La porte vient de se refermer et le jeune homme marche dans leur direction. Il espère que les cris qu'il a poussés pour affronter la douleur n'étaient pas audibles. Il installe un sourire sur son visage et frotte avec vigueur ses cheveux qui commencent à repousser. Il avait opté pour le crâne rasé, plus simple en prison, plus dissuasif aussi. Il paraît qu'il a une gueule d'ange avec ses cheveux châtains, bouclés et fins. La repousse est aléatoire, qu'importe. Il a besoin de liberté, même capillaire.
Bien dormi ?
Je crois, souvent réveillé, mais le temps de me souvenir où j'étais, je replongeais.
Tant mieux.
Je pense qu'elles dorment encore, mais tu peux aller te faire un café en attendant ou petit déjeuner si tu as faim. Sens-toi libre.
Cette petite phrase anodine le bouleverse. Il ne l'est pas complètement aux yeux de la justice, mais dans son corps, dans sa tête, au milieu des arbres et des premiers rayons qui commencent à dorer les champs, se sentir libre d'aller boire un café ou de rester dans la forêt est déjà une victoire immense. Il pense à Madame Metzger, qui lui a permis de décrocher cette place en conditionnel. Il ne la remerciera jamais assez. Même si cela ne devait durer qu'un seul jour, personne ne pourra lui reprendre ce qu'il ressent à cet instant précis. Le goût précieux de l'air qu'il respire, l'affection de ce chien qui cherche les caresses, et l'horizon, à perte de vue. Celui de la prison était à perte de vie.
Tu sais pourquoi j'étais en tôle ?
Non.
Personne ne me l'a demandé depuis que je suis là.
C'est important ?
Les 2 hommes regardent dans la même direction, vers les sommets vosgiens. Ils respirent, immobiles. Seul le chien déambule à la recherche des traces de lièvres ou de chevreuils. Le soleil dépasse enfin la montagne, se pose sur leurs joues, et la chaleur soudaine de ce premier rayon donne envie à Rémi de n'accorder aucune importance à son passé, puisque cette lumière du matin le rappelle au présent.
Tu ne sais pas non plus ce que j'ai vécu. On va travailler ensemble. On construira des choses. C'est un bon début. Si un jour tu veux m'en parler, tu pourras. Je n'ai pas besoin de le savoir pour faire les foins avec toi ou construire le muret au fond du jardin. Allez bien. Je commence à avoir faim. Et les animaux aussi. Tout à l'heure, on changera le parc des chevaux. Tous ensemble. Nous irons plus vite.
En attendant, Adrien lui montre comment nourrir les poules. Le mélange de graines, l'eau dans les bassines, le verrou à tourner pour qu'elles aillent gambader dans l'enclos qui leur est réservé. Elles sont toutes derrière le grillage à caqueter d'impatience. Quand Rémi leur ouvre la porte, elles filent dans toutes les directions. Leur offrir ce geste de liberté ajoute à son plaisir d'avoir retrouvé la sienne. Il aime déjà cette existence simple, alors qu'il n'en a encore rien vu. Alors qu'Adrien le prévient qu'ils ne vont pas chômer. S'il savait à quel point Rémi a envie de se retrousser les manches, il pourrait travailler 15 heures par jour, à s'en faire mal au dos, aux mains, aux pieds, du moment qu'il peut s'arrêter quand il veut pour lever le nez et regarder un instant les nuages passer. Avant de rejoindre Capucine pour le petit déjeuner, Adrien a donné rendez-vous à Rémi, à 9 heures, pour préparer le matériel des clôtures. On lui a conseillé de fixer à l'homme un cadre, des horaires, des objectifs. Le silence règne dans la grange rénovée. Elle dort encore à l'étage. Rémi allume la cafetière, ouvre les placards, dépose tout ce qu'il peut sur le bar haut qui jouxte la cuisine. Il pense à cette étrange situation dans laquelle il se trouve, sortir de prison et partager le quotidien de deux inconnus qui ignorent ce dont il est coupable. Il s'est fait couler un double serré, le bois en regardant par la fenêtre la route décrète au loin. Un jour, il pourra s'y promener, enchaîner les circuits pédestres, découvrir les lacs, les chaumes, les sommets, les fermes auberges. En altitude, le sentiment de liberté est prononcé. Le vent s'intensifie, l'horizon s'étire. On se sent plus puissant. Trop haut pour être atteint par la misère de certains cœurs humains qui tremblent au lieu de battre.
« Alors, cette première nuit ?»
lui lance Karine qui descend l'escalier en chemise de nuit. « Clémence dort encore ?»«
Je crois qu'elle a du sommeil à rattraper. » »«
Pas seulement du sommeil. » »«
Elle fait ce qu'elle peut. »
Karine grimpe sur un tabouret haut avant de s'étirer longuement. Les mains autour de la tasse brûlante que l'homme vient de lui tendre, elle trempe ses lèvres dans le café. Elle aussi fait ce qu'elle peut. Elle pense à sa longue descente aux enfers, l'impossibilité de réagir, de se battre, le vide et le froid qui s'installent dans sa chair, le corps qui finit par parler pour elle. Puis la lente reconstruction pour comprendre où les ordures s'immiscent pour piéger les femmes fragiles, dans quelles failles ces types accrochent leurs grappins, dans quel creux ils versent l'acide de leur prétendue supériorité. Elle observe du coin de l'œil ce jeune homme en face d'elle qui croque dans son pain avec l'arrogance de celui qui a faim. Elle se demande qui il est, d'où il vient, comment il l'aperçoit. Le parquet a grincé à l'étage. Clémence apparaît quelques instants plus tard dans un pyjama ample. Le visage chiffonné, les paupières gonflées, de larmes ravalées. Elle évite leur regard et vient s'asseoir devant un bol vide.
« Tu prends quoi le matin ?» lui demande Rémi.
« De l'eau chaude. »
« Avec une tisane, du thé ?»
« Non. »
« Et tu manges quoi ?»«
Je sais pas encore. »
Karine lui propose les céréales qu'elle a achetées la veille. Elle décline. « Du fromage ? Du jambon ? Du pain frais qu'Adria a déposé dans le sac de l'entrée ?» Elle opte pour un œuf dur. Elle n'a jamais goûté ceux d'une ferme. Rémi en fait rouler un dans sa direction. Clémence le saisit et le cogne doucement sur le bois de la table pour briser la coquille. L'homme regarde les doigts frêles en se demandant si l'un d'eux va casser avant l'œuf. Il approche sa main chaude et charnue, enveloppe celle de la jeune fille, glaciale et anguleuse, puis l'accompagne en dosant son effort. La coquille finit par céder et Clémence lui sourit. Il a avalé deux tartines généreusement beurrées quand elle achève d'écaler son œuf. Chaque geste est lent et appliqué, comme si elle avait réfléchi au moindre mouvement pour qu'il soit le plus économe en énergie. Elle le coupe en deux. Il est encore un peu coulant en son centre.
« Je n'ai jamais vu un jaune aussi orange !» s'exclame Karine. « Ça donne envie d'y tremper un pinceau. On dirait de la gouache. »
Clémence sourit à nouveau. Deux fois en l'espace de quelques minutes. Les deux autres se regardent, satisfaits. Ils le seront encore plus si elle se décide à le manger. Elle ne picore que la moitié d'une moitié. Cela aurait été tout pour ce matin si Rémi n'avait pas brandi une cuillère pleine de miel en lui suggérant d'y goûter puisqu'il est produit dans le bâtiment d'à côté. Il la lui tend en la tournant sur elle-même et la presse. « Dépêche-toi de la mettre en bouche avant que tout ne coule sur la table. » Karine trouve la ruse touchante. Le regard du jeune homme sur Clémence ne trompe pas. Il a décidé de prendre soin d'elle. Karine aimerait aussi attirer l'attention, générer de l'empathie, qu'on la considère, qu'on la dorlote. Elle se dit qu'elle ne paraît peut-être pas assez fragile ou qu'elle est trop âgée pour qu'un jeune homme lui accorde de l'intérêt. De toute façon, la place est prise. Le coup de foudre est tombé sur l'arbre d'à côté.
C'est pas le tout, mais on compte sur nous pour travailler, rappelle Rémi. Je vais préparer le matériel avec Adrien. On vous attend dehors.
Je dois venir ?
Demande Clémence. Rémi ne lui laisse pas le choix. Les deux hommes sont déjà au bout du champ quand Karine et Clémence les rejoignent en slalomant entre les crottins. Rémi sourit. Karine porte un t-shirt moulant et décolleté, elle s'est maquillée. Elle a quand même enfilé des baskets à paillettes. Adrien dirige les opérations. La brouette est pleine de piquets. Il faut les disposer tous les 5 mètres environ.
Comment on sait qu'il y a 5 mètres ? Demande Clémence.
Tu fais 5 grands pas. Je mesure 1m55, mes pas ne font pas 1 mètre, constate Karine.
Fais-en 6,
lui suggère Rémi. Clémence a trouvé 1 mètre déroulant dans la brouette et s'est isolée pour mesurer son pas. Adrien a beau lui assurer qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi précis, elle n'en démord pas. Rémi a saisi la masse et propose à Karine de tenir le piquet pendant qu'il frappera pour l'enfoncer.
« Et si tu tapes à côté ?»«
Je te brise le poignet. »« Tu me fais pas confiance ?» répond-il à mi-chemin entre la plaisanterie et l'agacement.
« Comment te dire ?»
Clémence s'approche en silence, saisit le poteau. Rémi hésite, puis il se met à frapper de toutes ses forces, en tenant le manche suffisamment près de la masse pour limiter le risque d'accident. À chaque coup porté, il voit vibrer le corps de la petite. Elle ne tient pas le piquet, elle s'y accroche. Concentrée et investie dans sa mission, elle se sent utile. Rémi commence à ruisseler. Il y a dans ses coups toute la rage accumulée entre les 4 murs d'une prison sale. Toute sa rage contre ce qu'il y a conduit. Il y a dans ses coups l'envie de construire, de créer, d'œuvrer. Il finit par enlever son t-shirt qui colle à sa peau et le gêne dans ses mouvements. Adrien le devine persévérant et déterminé. Sinon, il ne serait pas si musclé. Il faut une volonté sans faille pour se tailler un tel corps en soulevant de la fonte. Ici, les travaux font office de salle de sport. Béton à couler, crépi à appliquer, tas de terre à déplacer, murets à monter, plafond à peindre, arbres à tailler. Un peu de sport avec capucine, vélo, randonnée, course à pied. Et puis, l'amour. Souvent. Longtemps. Adrien se demande depuis combien de temps Rémi n'a pas ressenti cette brûlante fusion de la chair avec celle de la personne qu'on aime. Les ondes qui s'alignent, l'arc électrique qui parcourt le corps tout entier pendant quelques secondes d'éternité, le cerveau qui flotte dans les endorphines et ne veut plus en sortir. Depuis combien de temps n'a-t-il pas aimé ? Karine s'est assise dans le pré. Elle admire le corps musclé en pleine activité. Elle croit qu'il reste des hommes bons, des costauds tendres, des drôles, dans les bras desquels elle pourrait s'abandonner. Elle se console en se persuadant de les préférer plus expérimentés. Mais elle admire quand même et finit par s'en aller pour aider Capucine au potager. Entre 2 coups de masse, Rémi observe Clémence. Quelque chose s'installe dans son regard qui ressemble à du désœuvrement.
« Tu veux rejoindre Karine ?»
Clémence ne répond pas. Elle lâche le poteau et s'éloigne, sans un mot. Ses jambes ne sont pas plus épaisses que les avant-bras de Rémi. La surface irrégulière du champ la secoue lorsqu'elle marche, et sa silhouette bouge à la façon d'un pantin désarticulé. Parfois, elle dévie légèrement, comme si un souffle de vent ou un papillon l'avait bousculée. Adrien s'est également mis torse nu. Sa peau mate ne craint pas le soleil. À part cette énorme cicatrice que Capucine a pris soin de couvrir d'écran total un peu plus tôt.
« Blessure de guerre ?»
essaie Rémi. « Dans le vrai sens du terme. » Tout en installant les isolateurs sur les piquets, il commence à lui parler du Mali. La mission, les djihadistes, les patrouilles, la peur au ventre, qui finit par s'installer au quotidien. Il s'arrête pour boire quelques gorgées d'eau, s'assoit dans l'herbe et raconte le crash de l'hélico. Ses jambes qui ne répondent plus, cette douleur au flanc, l'odeur de la chair grillée, la rocambolesque évacuation. Comment as-tu réussi à te tenir à un train d'atterrissage en plein vol alors que tu venais de te cracher ? S'étonne Rémi, admiratif.
L'adrénaline,
la soif de vivre, répond Adrien. Ma mère, ajoute-t-il en souriant. Il évoque ensuite le rapatriement, sa peau sauvée de justesse, ce morceau-là et le reste du corps. Le choc post-traumatique et la longue remontée pour accueillir les cauchemars qui ne le quitteront jamais. Les copains qui sont repartis, pas lui.
La honte au début. Et puis, la phrase de Tchekhov que sa psy lui a soufflée. Rémi la tourne dans sa tête.
Comment savoir qu'on est juste ?
C'est une sensation au fond de soi. Tu es en harmonie ou tu ne l'es pas. À condition de savoir t'écouter.
Quand mon patron me mettait la pression et que j'allais au boulot avec une boule dans l'estomac, je n'étais pas juste avec moi alors ?
Non. Et quand ma femme me reprochait des tas de choses alors que je faisais déjà tout pour elle, elle n'était pas juste avec moi.
C'est toi, en l'acceptant, qui n'étais pas juste avec toi-même.
Non ?
Rémi pense aussi à Pauline, à ce qu'il n'aurait jamais dû admettre, à ce qu'il aurait dû faire plus tôt.
Adrien lui explique qu'il n'est pas trop tard. Cette phrase fonctionne dès qu'on en applique le principe.
Pour toi aussi ?
Quand j'ai croisé Capucine sur le quai d'une gare, il était juste que je m'arrête, que je laisse Bloom la renifler pour la réconforter. Et la suite est là, sous tes yeux.
Vous semblez si amoureux.
Nous le sommes. Quand la vie te balance des évidences, il faut pas résister.
Et vous ? Vous n'étiez pas amoureux ?
Rémi réfléchit longuement.
La question est difficile. Il s'apprête à répondre quand il aperçoit Capucine qui s'approche d'eux avec des casquettes et des recharges d'eau.
Adrien s'interrompt, lui promet qu'ils en reparleront s'il le souhaite, se lève et va à sa rencontre.
On allait rentrer. Il nous manque du fil et des isolateurs.
Moi, je retourne au jardin.
Adrien la regarde s'éloigner, amoureux et motivé. L'objectif partagé d'autonomie alimentaire participe à l'équilibre de leur couple, et il se réjouit de la savoir aussi volontaire. Un domaine en permaculture met des années à se construire. Un écosystème vivant s'apprivoise doucement. L'année prochaine, ils aménageront des structures grillagées pour faire grimper les tomates et les courges à la verticale, dont le feuillage permettra d'offrir de l'ombre à des légumes trop sensibles aux rayons brûlants. Ils pailleront encore plus épais pour garder l'humidité des sols, puisque les sécheresses vont s'accentuer. Ils s'adapteront, résilients comme les plantes. Ils passeront du temps. Adrien savoure tellement les bienfaits du jardin.
« Je suis sûr qu'il aura un effet sur Clémence et Karine », confie-t-il à Rémi.
« Il faudra qu'elle fasse des concessions avec sa manucure. »
Ici, l'essentiel gagne sur le futile.
Clémence trouvera peut-être l'envie de manger.
Elle ne résistera pas aux fraises chaudes et aux petits pois sucrés.
Les deux chevaux piaffent d'impatience de l'autre côté de la clôture pendant qu'on finalise leur nouveau parc. Enfin, Rémi leur ouvre le fil et les regarde, satisfait, se jeter sur l'herbe grasse. Quelques minutes plus tard, Adrien repart avec les outils. Il laisse Rémi derrière lui, qui caresse une des deux juments pendant qu'elle broute. Il aime sentir sous sa main le flanc de l'animal chauffé par le soleil, les tressaillements de la peau pour chasser les mouches, la queue qui balaie l'espace pour les dissuader de revenir. Impassible et sereine, Stevia n'attend rien de lui. Accepte ses caresses sans interrompre son quotidien. Elle est simplement là, 600 kilos de tranquillité. Rémi en a les larmes aux yeux.